Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Je rejoins notre collègue Emmanuel Latraverse pour parler politique. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, faisait déjà longtemps, très longtemps, peut-être que tu vas pouvoir me rappeler les dates que l'invitation était lancée par les premiers ministres des provinces pour Justin Trudeau pour qu'ils viennent s'asseoir avec eux pour parler de transfert de santé. Ben là, il va le faire.
Oui, c'est fait. La grande messe tant attendue et réclamée depuis un an et demi aura lieu le 7 février prochain. Ce qui est intéressant, c'est les termes qu'établit le gouvernement fédéral. On n'est pas dans un sommet pour accoucher d'une entente en santé. On définit ça comme une rencontre de travail. Pourquoi? Parce que, dans les faits, Ottawa, les provinces ne connaîtront pas l'offre d'Ottawa avant de se présenter le 7 février. Et les provinces ne savent pas combien d'argent Ottawa va mettre sur la table, à quel rythme. Avant de se présenter le 7 février. Donc, Ottawa garde toutes ses cartes dans son jeu avant de se pointer, mais surtout en définissant ça comme une rencontre de travail, ça enlève des épaules du gouvernement fédéral l'obligation de résultat, parce que c'est tout le temps ce qui devient compliqué dans ces choses-là. Là. Ottawa s'assoit face aux 10 provinces, c'est comme si elles ont un fusil sur la tempe, surtout en ce moment, alors qu'il y a vraiment une crise dans le réseau de la santé d'un océan à l'autre. Et Ottawa perd une partie de son levier de négociation. On veut pas de ce genre de mélodrame. Moi, je me rappelle, tout est trop jeune, là, mais en 2005, quand Paul Martin avait essayé de faire ça, ça avait duré 3 jours, ça avait fini à 3h30 du matin. C'est un vrai délire. On veut pas rejouer dans ce film-là. Là. C'est comme s'il n'y a plus jamais un premier ministre qui a voulu faire ça depuis. Alors, comme ça, Ottawa se garde le plus de marge de manœuvre possible. Dans les faits, qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là? Ben, c'est que tout le monde a décidé d'arrêter de niaiser, là. Parce que, entendons-nous, là, c'est pas comme si depuis le mois de janvier, là, ça négocie fort en coulisses, là.
Non.
Moi, du côté de Québec, on me dit, on n'a pas vraiment eu de négociation, puis il n'y en aura pas avant qu'on voit c'est quoi l'argent. Fait que, c'est comme, ça donne l'impression que les choses ont vraiment bougé. Mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Non, c'est ça. Puis là, même la nouvelle que Justin Trudeau va aller s'asseoir, OK, c'est du nouveau, mais comme tu dis, c'est le statu quo depuis tellement longtemps. Puis j'imagine non plus, Emmanuel, on peut pas s'attendre à ce que tout de suite, le gouvernement fédéral, en s'asseyant à la table, soit capable d'aller rejoindre l'attente des provinces en termes de transfert de santé. Là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une offre dans le milieu.
Deux choses. Le fédéral a quand même bougé beaucoup. Hein. J'ai fait l'exercice cet après-midi d'aller relire la plateforme électorale de 2021 du gouvernement Trudeau, c'était quoi? C'était 3,5 millions pour l'embauche de médecins et d'infirmières, 4,5 milliards pour la santé mentale et 9 milliards pour des soins de longue durée, incluant, rappelle-toi, des normes nationales, les préposés aux bénéficiaires à 25 $ de l'heure. On n'est plus là-dedans du tout. Là. À la place, Ottawa établit ce qu'il appelle des priorités, comme l'accès à la première ligne, la réduction des listes d'attente en chirurgie, un meilleur partage de données, un meilleur accès aux soins de longue durée. Donc, on est passé d'une approche très, très pointue et très interventionniste, objectivement, de la part des libéraux dans leur position initiale, qui était celle de la campagne électorale en 2021, à une approche beaucoup moins interventionniste. Ouais, écoutez, on comprend que c'est légère, les réseaux de la santé. On comprend que c'est vous qui ont des défis différents, puis c'est avec ça qu'on arrive, si on veut, avec une espèce de formule bicéphale pour le financement. Donc, Ottawa va mettre une partie de l'argent dans la bonification du transfert en santé. Ça, c'est l'argent qui est livré sans condition, si on veut. Puis après ça, on dit on va cibler des ententes bilatérales. Donc, ça veut dire que il va y avoir comme un pot d'argent, là, tu sais, qui va être divisé au prorata de la population pour les provinces. Mais ouais, où les provinces vont mettre l'argent, ben, ça va dépendre de leurs plans respectifs de réforme du réseau de la santé. C'est sûr qu'il y en a au Québec qui vont dire que M. Legault plie les chines et accepte les conditions d'Ottawa, parce que le fait d'accepter un fonds ciblé, de donner le moindre droit de regard à Ottawa, c'est céder devant son intrusion. Je pense, ouais, que dans les faits, on a accouché là d'une formule qui permet pas mal à tout le monde de sauver la face, là, parce que je pense que la patience des Canadiens face à ça, là, ça fait longtemps qu'elle est épuisée.
Ouais, puis le climat est peut-être pas très glorieux aussi en ce moment entre les provinces puis Ottawa. Il me semble que ça fait beaucoup là par les temps qui courent. Là, la clause dérogatoire en fin de semaine, Justin Trudeau qui parle de peut-être vouloir toucher à ça. Évidemment, les transferts en santé des provinces. Ici au Québec, il y a le chemin Roxham. On avait espoir qu'il en parle avec Joe Biden. Là, on tape, on tempère, on modère les attentes le plus possible avant la visite du président américain. L'ambiance va peut-être être tendue un tout petit peu quand tout le monde va s'asseoir.
Ben, peut-être, mais je pense qu'on a quand même une grande vertu, là, c'est de réussir à compartimentaliser les zones d'affrontement. La réalité, c'est que M. Legault, il en a besoin de l'argent.
Ouais.
M. Dubé a besoin de cette nouvelle formule de financement en termes de prévisibilité, parce que si vraiment c'est négocié sur une période de 10 ans, ben là, ça te permet de faire des vrais plans. Et objectivement, dans le reste du Canada, les provinces veulent l'argent et les Canadiens anglais veulent que ce soit réglé. Donc, tout ça fait en sorte que je pense que tout le monde est dans un climat. Puis on l'entend, hein, Monsieur Legault, qui est quand même capable d'être très, très, très acerbe avec Monsieur dans ses relations avec Ottawa, est plutôt poli et plutôt posé en ce moment. Personne n'a envie de mettre de l'huile sur le feu. Je pense que tout le monde a envie de passer à un autre appel, là.
Ouais, bien compartimentalisé. C'est un bon terme, je pense, que tu utilises là dans cette situation-ci. Ça avait fait beaucoup de bruit, la nomination là, de Bernard Drinville au poste de ministre de l'Éducation ici au Québec. Là, ça avait fait beaucoup de bruit au départ. Puis depuis ce temps-là, très discret, on disait qu'il prenait connaissance de ses dossiers, qu'il en avait beaucoup à apprendre, beaucoup à lire. Là, aujourd'hui, on a une première visite d'une école avec M. Legault devant les médias. Mais là, il va falloir que Bernard Drinville commence justement à répondre à des questions. Puis surtout, il y a des gros défis devant lui.
Ben, c'est demain, 8h du matin, on fait ça de bonne heure, il va falloir être prêt. Il va nous dévoiler son plan. Donc, on avait le plan Dubé, on aura le plan Drinville. Je suis pas sûre que ça va être aussi ambitieux. La réalité, c'est qu'est-ce que M. Drinville a été intimidé par l'ampleur des défis qui l'attendaient quand il a mis le pied au ministère de l'Éducation? C'est possible. Moi, je pense qu'il a un double problème. La réalité, c'est que M. Drinville veut stabiliser le réseau de la santé. Donc, les questions de pénurie de main-d'œuvre, d'accompagnement et de réussite scolaire pour les élèves en difficulté. C'est vraiment ça en priorité, mais sans s'attaquer au cœur du problème, qui est notre système d'éducation à trois vitesses, où finalement, ouais, t'as le privé, t'as le public enrichi ou le public à programme particulier, puis t'as le public normal qui est comme l'enfant pauvre avec tous les délaissés en termes de profs, d'étudiants, de ressources, de tout le reste. Alors, comment tu fais pour stabiliser le réseau sans toucher à la chose la plus qui déstabilise le reste? C'est ça qui est très difficile pour lui. Je pense que il y a énormément d'attentes dans la population. Puis il y a doublement un test parce que M. Legault est quand même un premier ministre qui dit sans cesse que l'éducation, c'est sa priorité. Ouais. Mais on l'entend à peu près jamais parler d'éducation. Donc là, c'est le moment de nous montrer qu'il est capable d'arriver avec un plan cohérent dans un contexte difficile. Puis pour ajouter une petite goutte de complexité, c'est qu'on n'est plus seulement dans l'idée de stabiliser le réseau, mais on le voit dans les médias au cours des dernières semaines, il y a vraiment un débat qui s'impose sur la qualité de l'éducation.
Ouais.
Quand le taux d'échec en français en secondaire 5 explose, quand les étudiants à l'université atteignent des proportions de 40% d'analphabètes fonctionnels, quand les profs sont pas capables de parler français, mais là, à un moment donné, tu dis, il y a un échec quelque part dans notre réseau d'éducation quand on n'est pas capable d'assurer une formation de base adéquate, importante sur ce qui est le joyau de notre identité, la langue française, là.
Ouais.
Alors, ça aussi, je pense que c'est un enjeu auquel M. Drainville va vouloir répondre. Puis c'est pas facile de répondre à ça quand tu décides que tu veux pas te lancer dans des grandes réformes, tu sais.
Ouais.
Alors, puis j'ai hâte de voir.
Ouais, puis moi aussi, puis je t'entends nommer une panoplie de problèmes dans le milieu de l'éducation, puis on dirait que pendant que je t'entends faire cette liste-là, moi, il y en a une autre, puis il y en a d'autres qui s'accumulent, parce que là, on n'a pas parlé de vétusité des écoles non plus, hein, des bâtiments, parce que ça aussi, c'est un problème avec lequel on a de la misère. Ça a été très, très important pendant la pandémie, alors qu'on avait besoin de qualité de l'air. Mais là, est-ce que ça va prendre l'arrière-plan? Il y a encore des écoles qui ont bien de la misère. Après ça, on pénurie de profs. Aujourd'hui, on parlait de solution d'ajouter 2 élèves par classe parce qu'on fait de l'économie de bout de chandelle, parce qu'on a des difficultés. Vraiment, ça, j'ai hâte d'entendre. Puis tu vas être là, toi, demain, à l'affût pour rapporter toutes ces nouvelles-là, Emmanuel?
Oui, mais moi, j'adore le dossier de l'éducation. Donc, c'est sûr que je vais être là. Je pense que... mais c'est un gros, gros test pour M. Drainville, parce qu'en plus, quand il a été nommé, je me lance dans une visite, dans une tournée des écoles. Je vais consulter le Québec. Je réfléchis. Là, on frôle le 100 jours qu'il est ministre, ben là, il faut qu'il accouche, tu sais.
Ouais.
Et donc, ça aussi, cette espèce de délai-là, ça fait monter les attentes.
Ouais, puis on verra comment le milieu de l'éducation, là, qui a été habitué à réagir de manière assez virulente aussi à ce qu'on leur propose, mais comment eux vont réagir demain à ce qui va leur être présenté. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup d'avoir été là.
Très bien, au revoir.
Salut.